4. Une fois la crise de croissance terminée, leur expliqua Overholser, on pouvait en mettre certains au travail. Les autres, la majorité d'entre eux, n'étaient même pas capables d'accomplir des tâches aussi simples que retirer des souches d'arbres ou de creuser des trous. Ceux-là restaient assis sur les marges de l'épicerie de Touk, ou bien se baladaient parfois dans la campagne. Des petits groupes de grandes perches dégingandées, de jeunes hommes et femmes énormes, énormes par la taille, le poids et la stupidité, se souriant parfois de toutes leurs dents en babillant ou bien regardant le ciel de leurs yeux écarquillés. Ils ne s'accouplaient pas, ce qui était une bonne chose. Tous n'atteignaient pas des tailles faramineuses et leurs capacités physiques et intellectuelles étaient variables. Mais il y avait une constante. Sexuellement parlant, ils revenaient morts. « Je vous prie d'excuser mes propos un peu crus, fit Overholser, mais je ne crois pas que mon frère Welland ait bandé une seule fois depuis qu'il est revenu, même en pissant. »« Zalea, t'as déjà vu ton frère avec une... enfin, tu sais bien. » Zalea secoua la tête. « Quel âge aviez-vous quand ils sont venus, Cy Overholser ?» demanda Welland. « La première fois, vous voulez dire ?»« Welland et moi, on avait 9 ans. » Le débit d'Overholser s'accéléra, ce qui donnait à ses paroles les allures de discours répétés, mais Eddie n'était pas dupe. Overholser était un maillon fort à Calabrian Sturges, gloire à Dieu et paix sur la terre, il était le gros fermier, il lui était difficile de déterrer ses vieux souvenirs, ceux du temps où il n'était qu'un enfant, petit, impuissant et terrifié. Notre pas et notre main ont essayé de nous cacher à la cave. C'est ce qu'on m'a raconté en tout cas, je me souviens de rien, bien sûr. J'ai fait en sorte d'oublier, je suppose. Oui, là, ça doit être ça. Certains se rappellent mieux que d'autres, Roland. Mais tous les récits reviennent au même. On en prend un et on laisse l'autre. Celui qu'on enlève revient crâné, peut-être capable de travailler un petit peu, mais mort en dessous de la ceinture. Et puis, quand ils arrivent à la trentaine... Quand ils arrivaient à la trentaine, les jumeaux crânés vieillissaient subitement. Très rapidement, leurs cheveux blanchissaient et parfois ils tombaient entièrement. Ils devenaient progressivement aveugles. Leurs muscles, autrefois prodigieux, comme l'étaient ceux de Tia Jaffords et de Salman Hunik, se relâchaient et s'atrophiaient. Parfois, ils mouraient paisiblement dans leur sommeil, mais le plus souvent, leur faim n'avait rien de paisible. Apparaissaient les escarres et les plaies, parfois sur la peau, mais plus fréquemment dans l'estomac ou le cerveau. Et tous mouraient bien plus que la normale, bien plus tôt que s'ils n'avaient jamais croisé les loups. Et beaucoup mouraient dans les mêmes conditions qu'en passant de la taille d'enfants normaux à celle de géants, en hurlant de douleur. Eddie se demanda combien de ces simplets, mourant dans des souffrances qui lui rappelaient un cancer en phase terminale, on étouffait ou on dormait à l'aide de sédatifs puissants qui les emmenaient au-delà de la douleur, au-delà du sommeil. Ce n'était pas le genre de question à poser, mais il se dit qu'il avait dû y en avoir beaucoup. Roland utilisait parfois le terme « Della », toujours accompagné d'un petit geste de la main vers l'horizon. « Beaucoup ». Les visiteurs de la Cala, une fois les langues et les mémoires déliées par le désespoir, auraient pu continuer ainsi un certain temps, multipliant les anecdotes malheureuses, mais Roland coupa court. « Maintenant, parlez-moi des loups eux-mêmes, je vous prie. Ils viennent à combien ?»«
À 40, » répondit Tian Jaffords.
« Dispersés dans toute la Cala ?» intervint Slightman l'aîné. « Non, plus de 40. » Puis se tournant vers Tian d'un air de s'excuser. « Tu n'avais pas plus de 9 ans toi-même la dernière fois qu'ils sont venus, Tian. Moi j'avais tout juste 20 ans, 40 en ville peut-être, mais il en venait plus dans les fermes et les ranchs isolés. Je dirais 60 en tout, Roland Sai, peut-être 80. »
Roland jeta un œil à Overholser haussant les sourcils.
« Ça fait 23 ans, remarquez bien, fit ce dernier. Mais je dirais qu'avec 60... « On ne tombe pas loin. »«
Vous les appelez des loups, mais que sont-ils en réalité, des hommes ou autre chose ?»
Overholser, Slightman, Tian et Zalea, l'espace d'une seconde. Eddie sentit qu'ils partageaient le même kef. Il pouvait presque les entendre. Il se sentit seul et délaissé, comme lorsqu'on voit un couple s'embrasser au coin d'une rue, tous deux enveloppés dans les bras l'un de l'autre ou se regardant dans les yeux, totalement perdus dans le regard de l'autre. Bon, il n'avait plus aucune raison de ressentir ce genre de choses. Pas vrai. Il avait son propre quatête, son propre kef, sans parler de sa propre femme. Il vit du coin de l'œil que Roland faisait ce petit geste de la main qui lui était devenu tellement familier et qui signifiait « Allez, les gars, on n'a pas toute la journée !»«
Impossible d'être certain, » répondit Overholser. « Ils ressemblent à des hommes, mais ils portent des masques. »
« Des loups ?» dit Susanna.
« Si fait, jeune dame. Des masques de loups aussi gris que leurs chevaux. »
« Vous dites qu'ils viennent tous sur des chevaux gris ?» demanda Roland. Le silence fut cette fois-ci plus bref, mais Eddie ressentit à nouveau la magie du kef et du katet, les esprits qui communiquent de manière tellement élémentaire qu'on ne peut même pas parler de télépathie. C'était plus que de la télépathie classique.
« Mon salaud !» s'exclama Overholser,
une expression argotique qui semblait signifier « Tu peux le dire, mon vieux, et me fais pas l'insulte de reposer cette question.
Tous sur des chevaux gris. Ils portent des pantalons gris qui ressemblent à de la peau, des bottes noires avec d'énormes éperons cruels, et écoutez-moi bien, je vous prie, des capes vertes à capuche. Et ces masques, on sait que ce sont des masques parce qu'on en a retrouvé. On dirait de l'acier, mais au soleil, ils pourrissent comme de la chair. Saloperie !»«
Ah !»
Overholser lui adressa un regard de côté plutôt insultant, du genre qui veut dire « T'es bête ou juste un peu lent ?» Puis Slightman enchaîna. « Leurs chevaux sont rapides comme l'éclair. Parfois, ils calent un babé à l'avant de la selle et un autre derrière. »«
Vraiment ?» demanda Roland.
Slightman hocha énergiquement la tête.
« Grand merci, oh Dieu !»
Il vit Callahan dessiner à nouveau une croix dans l'air en soupirant.
« Pardon, le vieux. »
Callahan haussa les épaules. « Vous étiez là avant moi.
Appelez-en à tous les dieux que vous voudrez du moment que vous n'oubliez pas que je les considère tous comme inventés. »
« Et ils arrivent de tonne foudre ?» demanda Roland, ignorant le dernier échange.
« Si fait, » dit Overholser, « vous verrez dans cette direction à environ 100 roues, » dit-il en pointant le doigt vers le sud-est.
« On sort du bois sur la dernière colline avant le croissant. De là, on voit toute la plaine de l'ouest et au-delà une étendue de ténèbres comme un nuage de pluie à l'horizon. On dit, Roland, qu'il y a très longtemps, on apercevait des montagnes dans cette région. »
« Comme les rocheuses depuis le Nebraska, » soupira Jake.
Overholser lui lança un regard.
« Je vous demande pardon, Jake Saw. »
« Rien, » répondit-il avec un petit sourire embarrassé à l'intention du gros fermier.
Pendant ce temps, Eddie enregistrait le terme qu'Overholser avait employé. Il n'avait pas dit « Sai », mais « Saw ». Encore un détail intéressant.
« Nous avons entendu parler de tonne foudre, » dit Roland.
L'absence d'émotion dans sa voix avait quelque chose de terrifiant, et Eddie se réjouit de sentir la main de Susanna se glisser dans la sienne.
« D'après ce qu'on raconte, c'est un pays de vampires, de croque-mitaines, de taïnes, » leur dit Zalia. Elle parlait d'une petite voix presque chevrotante.
Oh, « Bien sûr, ça remonte à loin. »«
Mais c'est vrai !» fit Callahan d'une voix dure, mais dans laquelle Eddie sentit poindre la peur, très clairement. « Il y a des vampires, et bien d'autres choses probablement. Et tonne foudre et leur nid. Nous pourrons en reparler une autre fois, pistolero, si cela vous sied. Pour le moment, écoutez-moi seulement, je vous prie. Sur les vampires, j'en sais pas mal. Je ne sais pas si les loups leur amènent les enfants de la Cala. J'ai tendance à croire que non. Mais oui, il y a bel et bien des vampires. »
« Pourquoi pensez-vous que j'ai le moindre doute à ce sujet ?» demanda Roland.
Callahan baissa les yeux. « Parce que c'est le cas de beaucoup de gens. Moi-même, j'ai douté. J'ai beaucoup douté. » Et sa voix se brisa. Il se racla la gorge, puis lorsqu'il reprit la parole, ce fut presque dans un souffle. « Et c'est ce qui a causé ma perte. »
Roland resta silencieux quelques instants, accroupi sur les talons de ses vieilles bottes, les bras enroulés autour de ses genoux osseux, se balançant très légèrement d'avant en arrière. Puis il se tourna vers Overholser. « À quelle heure viennent-ils ? »
« Le jour où ils ont pris Welland, mon frère, c'était le matin, »
dit le fermier. « Peu après le petit déjeuner. Je m'en souviens parce que Welland avait demandé à notre main s'il pouvait emporter son bol de café à la cave. Mais la dernière fois, quand ils ont pris la sœur de Tian et le frère de Salia et beaucoup d'autres, j'ai perdu deux nièces et un neveu, glissa Slightman l'aîné. Cette fois-là, c'était peu après-midi. La cloche de la salle du conseil venait de sonner. Quant au jour, on le sait, parce qu'Andy le connaît, que ça, il veut bien nous le dire. Et alors, on entend le tonnerre des sabots quand ils s'en viennent de l'est, et on voit se lever le nuage de poussière qu'ils soulèvent sur leur passage. Ainsi, vous savez quand ils arrivent, fit Roland. En fait, vous l'apprenez par trois biais. Andy, le bruit des sabots, et le nuage de poussière. Overholser, comprenant ce que Roland sous-entendait, était devenu rouge brique, des pommettes jusqu'à la base du cou. « Ils viennent armés, Roland, savez-vous, avec des fusils, des carabines, mais aussi des revolvers, comme on porte votre propre catette, et des grenades, et ce n'est pas tout. Ils ont aussi les armes redoutables des grands anciens, des lumitriques qui tuent instantanément tout ce qu'ils touchent, des boules de métal volantes qu'on appelle des drones ou des vifs d'argent. » Les lumitriques vous brûlent la peau jusqu'à ce qu'elles deviennent toutes noires. Le cœur s'arrête. C'est peut-être électrique ou peut-être... Eddie entendit d'abord fantomatique. Il crut qu'Overholser essayait de dire anatomique, puis il comprit que c'était sans doute atomique. Une fois que les drones nous ont filé, ils vous suivent, peu importe à quelle vitesse vous courez, renchérit le fils de Slightman. Même si vous zigzaguez, pas vrai pas? Mon salaud, confirma Slightman l'aîné. Puis il leur pousse des lames qui tournent dans tous les sens et qui vous découpent en morceaux en moins de deux. Tous sur des chevaux gris, murmura Roland d'un air pensif. Tous de la même couleur. Quoi d'autre? Rien d'autre apparemment. Tout avait été dit. Ils arrivaient de l'est le jour prédit par Andy. Et l'espace d'une heure épouvantable, peut-être plus, toute la cala résonnait du tonnerre des sabots de ses chevaux gris et des cris de désespoir des parents ravagés. Les capes vertes virevoltaient, les masques de loups qui semblaient en métal et qui pourrissaient comme de la chair au soleil grognaient de toutes leurs dents. Les enfants étaient enlevés. Parfois, ils en oubliaient une paire et les jumeaux n'étaient pas séparés, ce qui laissait penser que la préscience des loups n'était pas parfaite. Pourtant, il devait être balèze, pensa Eddie. Puisque même quand les parents éloignaient les enfants, ce qui était souvent le cas, ou qu'ils les cachaient, comme c'était presque toujours le cas, les loups les dénichaient quand même et s'entraînaient. Même sous une pile de vivraves ou sous une meule de foin, ils les trouvaient. Les habitants de la Cala qui tentaient de leur tenir tête étaient abattus, grillés par les lumitriques, une sorte de laser peut-être, ou découpés en morceaux par les drones volants. Cette dernière monstruosité rappela à Eddie un petit film d'horreur qu'Henry l'avait emmené voir au cinéma, quasiment de force. Fantasme, ça s'appelait. Là-bas, au vieux Majestic, au coin de Brooklyn et de Markey Avenue. Comme trop de souvenirs de son ancienne vie, le Majestic empestait la pisse, le pop-corn et la gnôle qu'on vous tend dans des sacs en papier craft. Parfois, on retrouvait des seringues dans les allées. Rien de bien riant, c'est sûr. Pourtant, parfois, la nuit, souvent, quand le sommeil tardait à venir, une partie intime de lui regrettait la vie à l'époque du Majestic. Son cœur la pleurait comme un enfant kidnappé pleurant sa mère. Les enfants étaient emmenés, le tonnerre des sabots repartait d'où il était venu. Et c'était fini. « Non, c'est pas fini, fit Jake. Ils doivent bien les ramener, pas vrai ?»« Non, dit Overholser. Les cramés reviennent par le train. Écoutez-moi. Il y a un gros tas de ferraille, je pourrais vous le montrer. Et... quoi? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Jake était bouche bée, le visage complètement blême.
On a eu une mauvaise expérience avec un train il n'y a pas si longtemps, dit Susanna. Les trains qui ramènent vos enfants, ce sont des monorails?
Non. Pour tout dire, ni Overholser, ni les Jaffords, ni les Slightman père et fils n'avaient la moindre idée de ce qu'était un monorail. Callahan, qui avait fait un tour à Disneyland adolescent, le savait, lui. Les trains dans lesquels revenaient les enfants étaient tractés par de bonnes vieilles locomotives. Dieu merci, aucune d'elles ne s'appelle Charlie, pensa Eddie. Sans conducteur et dotée d'un ou deux wagons plats sur lesquels étaient entassés les enfants. À leur arrivée, la plupart du temps, ils hurlaient de peur, et du fait des insolations aussi, s'il faisait chaud et clair à tonne foudre, tout couverts de nourriture, de leurs propres excréments, et complètement déshydratés, pour couronner le tout. Il n'y avait pas de gare en amont, même si Oberholzer émettait l'hypothèse qu'il y en avait eu dans les siècles passés. Une fois les enfants débarqués, des chevaux dégageaient les wagons de la tête de ligne rouillée. Eddie se dit qu'ils auraient pu évaluer le nombre de rafles des loups en comptant les locomotives mises à la casse, comme on évalue l'âge d'un arbre en comptant les anneaux dans la souche. Et la longueur du voyage, vous avez une idée ? Demanda Roland. À en juger par leur état quand ils arrivent. Oberholzer jeta un regard à Sleitman, puis à Tian et à Zalia. 2 jours ? 3 ? Ils haussèrent les épaules et acquiescèrent. 2 ou 3 jours, dit Oberholzer à Roland, avec peut-être plus d'assurance qu'il n'en ressentait, à en juger par la tête que faisaient les autres. Assez longtemps pour attraper des coups de soleil, pour manger presque toutes les rations qu'il leur avait laissées. Ou s'embarbouiller le corps, grogna Sleitman. Mais pas assez longtemps pour mourir d'insolation, termina Oberholzer. Si vous vous en tenez à ça pour juger à quelle distance de la cala il se trouvait, tout ce que je peux dire, c'est que je vous souhaite bien du plaisir avec cette devinette, parce que personne ne sait à quelle vitesse va le train en traversant les plaines. De ce côté de la rivière, il arrive plutôt lentement, mais ça ne veut pas dire grand-chose. « C'est vrai, » acquiesça Roland. Il réfléchit une seconde. « Il reste 27 jours ?»«
26 maintenant, » rectifia doucement Callahan.
« Juste une chose, Roland, » dit Oberholzer. Il avait l'air de s'excuser, pourtant sa mâchoire carrée affirmait le contraire. Eddie se dit qu'il était le genre de gars qu'on pouvait détester au premier regard, enfin, si on avait un problème avec les figures d'autorité, ce qui avait toujours été le cas d'Eddie. Roland leva les sourcils comme une question silencieuse. « Nous n'avons pas dit oui. » Oberholzer se tourna vers Sleitman, comme pour obtenir son assentiment. Ce dernier hocha la tête.
Vous devez intuiter que nous n'avons aucun moyen de savoir si vous êtes bien ce que vous dites, fit Sleitman d'un air un peu désolé. Il n'y avait pas de livre chez moi quand j'étais petit, et il n'y en a pas non plus au ranch. Je suis contremaître chez Eisenhart au Rocking Bee, à part les livres de contes. Et comme tous les petits garçons, j'ai grandi avec les histoires de Gilead, de Pistolero et d'Arthur l'aîné. J'ai entendu parler de Jericho Hill et tous ces récits sensationnels, mais je n'ai jamais entendu parler d'un pistolero à qui il manque 2 doigts, ou d'une femme noire pistolero, ou d'un pistolero qui ne se rasera pas avant un bout de temps. Sur le visage de son fils se lisait le choc et un embarras aux limites de la torture. Sleitman, père, avait l'air assez embarrassé lui-même, mais il poursuivit. « J'implore votre pardon si mes paroles vous offensent. Soyez-en sûrs. »
« Écoutez. Écoutez-le bien, » marmonna Oberholzer.
Eddie se surprit à penser que, si la mâchoire de ce type avançait encore d'un millimètre, elle allait casser net. « Mais la décision comprendra. » aura des répercussions très longues. Vous devez le comprendre. Si on fait le mauvais choix, ça peut signifier la mort de notre ville et de tous ses habitants.
« Je n'en crois pas mes oreilles !» s'exclama Tian Jaffords avec indignation. « Vous croyez qu'ils sont des imposteurs ?»« Bon Dieu, mon vieux, mais tu l'as donc pas regardé ?» Tu n'as pas... »
Sa femme lui empoigna le bras assez fort pour imprimer les marques blanches du bout de ses doigts sur son bronzage de fermier.
Tian la regarda et se tut, mais serra les lèvres.
Au loin, un corbeau cria, et un rouillot lui répondit de sa voix légèrement stridente. Puis le silence retomba. Un par un, ils se tournèrent vers Roland de Gilead pour voir comment il allait répondre.
5. C'était toujours la même chose et ça commençait à le fatiguer. Ils demandaient de l'aide, mais ils exigeaient aussi des références. Un défilé de témoins, si possible. Ils voulaient un sauvetage sans risque, juste fermer les yeux et se faire sauver. Roland se balançait lentement d'avant en arrière, les bras enroulés autour des genoux. Puis il hocha la tête pour lui-même et leva la tête. « Jake, » appela-t-il, « viens à moi. » Jake lança un regard à Benny, son nouvel ami, puis se leva et rejoignit Roland. Ôté sur ses talons, comme toujours.
« Andy, » fit Roland.
« Sai,
apporte-moi 4 assiettes dans lesquelles nous avons mangé. » Et tandis qu'Andy s'exécutait, Roland s'adressa à Overholser. « Vous allez perdre de la vaisselle. Quand les pistoleros débarquent en ville, Sai, il y a de la casse. C'est un fait. C'est la vie. »
« Roland, je ne crois pas que ce soit nécessaire.
Taisez-vous maintenant, » répondit Roland, et bien que sa voix fût douce, elle fit taire Overholser immédiatement. « Vous avez raconté votre histoire, à nous de dire la nôtre. »
L'ombre d'Andy tomba sur Roland. Le pistolero leva les yeux et prit les assiettes qui n'avaient pas encore été rincées et luisaient de gras. Puis il se tourna vers Jake, chez qui s'était produit un changement remarquable. Tant qu'il était assis à côté de Benny à regarder Otte faire ses tours et à sourire de fierté, Jake ressemblait à n'importe quel garçon de 12 ans, sans soucis, plein de fantasmes sans doute. À présent, le sourire avait disparu et il était devenu pratiquement impossible de deviner son âge. Il planta ses yeux bleus dans ceux de Roland qui étaient presque de la même teinte. Sous son aisselle, le rugger que Jake avait pris dans le bureau de son père dans une autre vie était suspendu dans son crampon de débardeur. Il avait protégé la gâchette avec une boucle de cuir brut qu'il desserra sans ciller. Il lui suffit d'une pichenette.
« Récite ta leçon, Jake, fils d'Elmer, et sois sincère. »
Roland s'attendait presque à une intervention de Susanna ou d'Eddie, mais ils ne bronchèrent pas. Il les regarda. Leurs visages exprimaient la même froideur et la même gravité que celui de Jake. « Parfait. » Sa voix aussi était impassible, mais les mots frappèrent avec force et assurance.
« Je ne vise pas avec ma main. Celui qui vise avec sa main a oublié le visage de son père. Je vise avec mon œil. Je ne tire pas avec ma main.
Je vois pas ce que... » commença Overholser. « La ferme !» lança Susanna, en pointant un doigt dans sa direction.
Jake semblait ne pas avoir entendu. Ses yeux ne quittèrent pas ceux de Roland. La main droite du garçon reposait en haut de son torse, doigts écartés.
Celui qui tire avec sa main a oublié le visage de son père. Je tire avec mon esprit, je ne tue pas avec mon arme. Celui qui tue avec son arme a oublié le visage de son père.
Jake s'interrompit, il inspira, puis il reprit.
Je tue avec mon cœur.
Alors tue-les, ordonna Roland, et sans autre effet d'annonce, il lança les 4 assiettes haut dans l'air. Elles s'élevèrent, se séparèrent en tournoyant, 4 formes noires sur fond de ciel blanc. La main de Jake, celle posée contre son torse, devint subitement floue. Elle arracha le rugger de son crampon de débardeur, le fit tourner d'un coup de poignet et pressa la détente, alors que la main de Roland n'était pas encore redescendue. Les assiettes n'eurent pas l'air d'exploser à tour de rôle, mais toutes en même temps. Les éclats retombèrent dans la clairière. Quelques-uns tombèrent dans le feu, soulevant des cendres et des étincelles. 2 ou 3 rebondirent même sur la tête d'acier d'Andy avec un bruit de tôle. Roland lança de nouveau les mains dans l'air, si vite que tout fut flou. Sans qu'il leur ait rien ordonné, Eddie et Susanna firent de même, alors que les visiteurs de la calave eurent un mouvement de recul, assourdis par les déflagrations et sous le choc de la rapidité des coups de feu.
« Regardez vers nous et dites grand merci !» dit Roland.
Il tendit les mains, paumes vers le haut. Eddie et Susanna en firent autant. Eddie avait rattrapé 3 tessons, Susanna 5, ainsi qu'une éraflure à un doigt. Quant à Roland, il avait intercepté une bonne douzaine d'éclats brûlants. On aurait dit qu'il y avait de quoi reconstituer une assiette en collant les morceaux. Les 6 de la cala les contemplaient, interloqués. Benny le Kid, qui met encore les mains sur les oreilles, les en retira lentement. Il regarda Jake comme s'il était un revenant ou une apparition surgie du ciel.
« Mon Dieu !» fit Callahan.
« On dirait un tour dans un vieux spectacle de western. »
« Il n'y a pas de tour, » dit Roland. « Ne croyez surtout pas ça. »
C'est la voix d'Eld. Nous sommes de cette Antet, de ce Kef et de ce K-là, par ma montre et mon billet. Des pistoleros, voyez-vous. Et maintenant, je vais vous dire ce que nous allons faire.
Ses yeux cherchèrent ceux d'Overholser. Ce que nous allons faire de notre propre volonté, car aucun homme ne nous donne d'ordre.
Pourtant, je pense que ce que je dirai ne vous indisposera en aucune façon. Si cependant c'était le cas, Roland dansa les épaules. Si c'est le cas, tant pis, signifia ce haussement d'épaule. Il laissa tomber les éclats d'assiette entre ses pieds et s'épousta les mains. Si ça avait été des loups, il n'en serait resté que 56 pour vous tracasser au lieu de 60. 4 d'entre eux au tapis en un clin d'œil, tués par un garçon. Il lança un regard à Jake, par ce qu'on pourrait appeler un garçon, peut-être. Il se tut un instant. Nous avons l'habitude de des côtes fortes.
Ce jeune gars est une sacrée gâchette, je peux vous le dire, fit Slightman l'aîné. Mais il y a une différence entre des assiettes d'argile et des loups à cheval.
Pour vous, ça aille peut-être. Pas pour nous. Pas une fois la fusillade lancée. Quand les coups de feu commencent, nous tuons tout ce qui bouge. N'est-ce pas pour ça que vous avez fait appel à nous?
Supposons qu'on ne puisse pas les abattre, demanda Overholser.
Que même les calibres les plus durs soient inefficaces?
Pourquoi perdre notre temps quand nous en avons si peu? Répondit Roland d'une voix égale. Vous savez qu'on peut les tuer, ou bien vous ne seriez jamais venu nous chercher. Si je n'ai pas posé la question, c'est que la réponse va de soi.
Une fois de plus, Overholser vira au rouge brique.
J'implore votre pardon, dit-il.
Benny fixait toujours Jake de ses yeux écarquillés, et Roland eut un petit pincement de regret en pensant aux deux garçons. Il réussirait peut-être à rester ami, dans une certaine mesure, mais ce qui venait de se produire avait changé la donne en profondeur. Il ne s'agissait plus du kef insouciant que partageaient en général des garçons du même âge, ce qui était bien dommage, car quand Jake avait été appelé à devenir pistolero, il n'était encore qu'un enfant, presque au même âge que Roland lui-même, quand il avait dû passer l'épreuve de force, pour ainsi dire. Mais il ne serait plus jeune très longtemps. Et c'était triste.
À présent, écoutez-moi, dit Roland, écoutez-moi attentivement. Nous allons bientôt vous laisser pour retourner à notre propre campement et tenir conseil entre nous. Demain, lorsque nous arriverons dans votre ville, nous nous présenterons à l'un d'entre vous.
Venez aux 7 lieues, proposa Overholser. Nous vous recevrons et grand merci, Roland.
Chez nous, c'est beaucoup plus petit, dit Tian.
Mais Zalia et moi, nous serions ravis de vous recevoir, proposa Zalia, qui avait rougi autant qu'Overholser.
Si fait, ravis.
Sai Callahan, outre une église, possédez-vous une maison? Demanda Roland.
Callahan sourit.
Oui, et j'en remercie Dieu.
Nous pourrions peut-être rester chez vous pour notre première nuit à Calabrian Sturges. Qu'en dites-vous?
Volontiers. Vous seriez les bienvenus.
Vous pourriez nous faire visiter votre église, nous dévoiler ses mystères.
Callahan ne sia pas.
J'en serais très heureux.
Les jours suivants, poursuivit Roland, un sourire aux lèvres, nous nous en remettrons à l'hospitalité de la ville.
Et vous ne serez pas déçus, fit Tian, je peux vous l'assurer.
Overholser et Slightman acquiescèrent. À en juger par le repas que nous venons de faire, je n'en doute pas.
Grand merci à vous, Sai Jaffotz. Nous disons grand merci, tous autant que nous sommes.
Pendant une semaine, tous les quatre, nous parcourrons votre ville pour fureter ça et là. Peut-être un peu plus longtemps, mais vraisemblablement une semaine. Nous observerons la configuration des lieux et l'implantation des bâtiments,
en vue de l'arrivée de ces loups. Nous parlerons aux gens, les gens nous parleront. Vous qui êtes ici, vous y veillerez, n'est-ce pas ?
Callahan hocha la tête.
Pour les Manly, je ne peux rien dire, mais je suis certain que le reste de la ville sera ravi de vous parler des loups. Dieu sait, et l'homme Jésus, qu'il n'y a rien de secret. Et ceux du Croissant sont terrifiés. S'ils ont le sentiment que vous pouvez nous aider, ils feront ce que je leur dirai de faire.
Les Manly aussi me parleront, dit Brant. J'ai déjà tenu palabre avec eux par le passé.
Ne vous laissez pas emporter par l'enthousiasme du vieux, Roland, intervint Overholser en levant ses mains replètes en geste de mise en garde. Il y a dans cette ville des gens que vous aurez à convaincre.
Von Eisenhardt, pour commencer, confirma Slightman.
Si fait. Et Ebentuk, l'épicerie générale est le seul commerce à porter son nom, vous intuitez? Mais il possède aussi la pension et le restaurant juste en face, et aussi la moitié des parts de l'écurie et des hypothèques sur la plupart des petites exploitations des environs.
Concernant les petites exploitations, faudra pas négliger Bucky Javier, grogna Overholser. C'est pas le plus gros d'entre eux, mais c'est uniquement parce qu'il a donné la moitié de ce qu'il avait à sa sœur pour son mariage.
Overholser se pencha vers Roland, les yeux pétillants à l'idée de transmettre la petite histoire de sa ville.
Roberta Javier, la sœur de Bucky, elle a bien de la chance. La dernière fois que les loups sont venus, elle et son frère jumeau n'avaient qu'un an. Alors, ils en ont réchappé.
Le frère jumeau de Bucky avait été enlevé la fois d'avant, dit Slightman.
Bally est mort il y a au moins 4 ans maintenant.
De la maladie.
Depuis, Bucky en fait toujours plus pour les deux plus jeunes.
Mais il faudrait que vous lui parliez, si fait. Bucky n'a que 80 acres, mais il est rusé.
Roland réfléchit. Il ne voit toujours pas.
Merci, dit-il. La première chose que nous ayons à faire, c'est surtout observer et écouter. Une fois cela fait, nous demanderons au porteur de la plume de la faire tourner, afin de convoquer un conseil. Lors de ce conseil, nous vous dirons si la ville peut être défendue, et si tel est le cas, de combien d'hommes nous aurons besoin pour nous aider.
Roland vit Overholser ouvrir la bouche pour parler, et lui fit non de la tête.
Quoi qu'il en soit, pas beaucoup. Nous sommes des pistoleros, pas une armée.
Nous pensons autrement, nous agissons autrement. Nous demanderons peut-être 5 hommes, probablement moins, 2 ou 3. Mais nous aurons sans doute besoin de plus pour nous aider à nous préparer.
Pourquoi ? Demanda Benny.
Roland sourit.
Ça, je ne peux pas encore le dire, fiston, car je n'ai pas encore vu à quoi ressemble votre cala, mais dans des cas comme celui-ci, l'arme la plus efficace, c'est toujours l'effet de surprise. Et en général, il faut beaucoup de monde pour préparer une bonne surprise.
Pour les loups, la plus grande surprise, ce sera le fait qu'on ose se battre, dit Tian.
Et si vous concluez que la cala ne peut pas être défendue, demanda Overholser, dites-moi ce qui se passera, je vous prie.
Eh bien, mes amis et moi, nous vous remercierons pour votre hospitalité et nous reprendrons la route, répondit Roland, car nous avons affaire plus loin sur le sentier du rayon.
Il observa le visage déconfit de Tian et Zalia pendant quelques secondes, puis reprit.
Mais ça m'étonnerait, vous savez, on trouve toujours un moyen.
Espérons que ce conseil recevra un jugement favorable de votre part, fit Overholser.
Roland hésita. C'était le moment pour lui d'asséner la vérité s'il le désirait.
Si ces gens persistaient à croire qu'un conseil de fermiers et de ranchers était en mesure de contraindre à l'action un tête de pistolero, c'est qu'ils avaient réellement perdu le sens de ce que le monde avait été.
Mais était-ce si grave? Pour finir, tout ça rentrerait dans le grand flot de sa longue histoire.
Ou pas, dans ce cas...
Roland achèverait sa longue histoire et sa quête à Calabren Sturgis à moisir sous une pierre.
Peut-être même pas, peut-être finirait-il entassé quelque part à l'est de la ville avec ses amis, autant de viande pourrie livrée au bec des corbeaux et aux rouillots. C'est le cas qui en déciderait, comme toujours. En attendant, ils avaient tous le regard fixé sur lui.
Roland se leva et grimaça quand la douleur dans sa hanche droite se rappela violemment à lui. Calquant leur comportement sur le sien, Eddie, Susanna et Jake se lavèrent à leur tour. Quelle heureuse rencontre que la nôtre, conclut Roland. Quant à la suite, il y aura de l'eau si Dieu le veut.
Amen, répondit Callahan.